Donc après avoir fini ce projet sur les signatures biologiques, donc faute de moyens, faute de financement, bah, j'ai dû sortir du projet. Et là, je me suis dirigé vers une autre expérience scientifique qui s'appelle Virgo et qui est un interféromètre dédié à la détection des ondes gravitationnelles. Donc, c'est un autre gros chapitre, les ondes gravitationnelles. Donc, c'est quelque chose, c'est une vibration de l'espace-temps qui est prévue par les équations d'Einstein. Et donc, depuis un moment, on cherchait à les détecter. Et donc, il y a deux instruments sur Terre, Virgo côté européen et puis LIGO aux États-Unis, qui sont des monstres technologiques d'optique et d'électronique dédiés à cette détection. Donc, après un passage par Virgo, j'ai décidé d'arrêter la recherche et finalement de me consacrer à mon autre passion. C'est un peu la même, il y avait vraiment celle de l'astronomie, celle de la recherche, et puis celle de la divulgation, ou de la vulgarisation, ou de la popularisation, on l'appelle un peu comme on veut. Mais en gros, de toutes ces découvertes, de tout ce qui se faisait en labo, de tout ce que j'ai découvert, ben, j'ai toujours, au travers, comme ça, au dehors de mon travail, fait visiter, expliquer, montrer, raconter. Et puis, à un moment, ben, j'ai pris le choix de rendre cette voie-là professionnelle, et de créer ma propre société qui existe toujours, qui s'appelle Tiens l'univers, et de dédier donc cette société, mon activité, essentiellement à la popularisation, divulgation de l'astronomie. Alors évidemment, c'était pas pour faire ce qui se fait déjà, c'est-à-dire que le bilan, l'astronomie est très populaire dans la vulgarisation, c'est une des sciences qui se vulgarise le plus. Malgré des concepts assez compliqués, mais c'est vrai qu'il y a elle paraît inabordable sous certains aspects, mais en même temps fait rêver, poétique, et puis interroge quand même sur des questions fondamentales de qui on est, d'où on vient, où on est, donc des choses que seule cette science aborde directement. Évidemment, on rejoint des courants philosophiques, pensées, voire spirituels. Donc l'astronomie est vraiment très très large et intéresse quand même beaucoup, une grande part de population, vraiment à tous les âges. Et donc il y a déjà de la vulgarisation qui se fait, beaucoup de scientifiques font des livres, il y a une série d'émissions, peut-être plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, mais quand même c'est bien présent. Et puis il y a aussi tous les clubs d'astronomie très très actifs en France qui font des soirées d'observation, qui invitent le public à venir observer. Mon bilan là-dedans, c'était que finalement, de beaucoup des volontaires associatifs surtout, et autres qui font des soirées, eh bien, beaucoup abordent plein d'aspects de l'astronomie, mais pas forcément avec le recul qu'un chercheur qui a abordé le sujet sous plein d'angles et qui peut le présenter dans une plus grande globalité avec un grand recul. Et puis de l'autre côté, on avait les chercheurs qui font de la vulgarisation, qui évidemment certains sont très bons, arrivent vraiment à faire passer plein de concepts très intéressants, mais n'ont pas tout leur temps à dédier à cette activité parce qu'ils font de la recherche. Et donc, en me mettant entre deux, l'idée, c'était de proposer, évidemment, de faire découvrir l'astronomie, mais pas pour refaire des cours, pas pour redistribuer du savoir simplifié, ce qui était vraiment appelé avant la vulgarisation, mais plutôt pour émerveiller, faire découvrir le ciel, faire découvrir tous ces aspects assez incroyables qu'on a dans la nature, qui ont été découverts par la physique et l'astronomie, et vraiment titiller le côté découvreur et la curiosité de chacun pour que chacun s'accapare l'espace, l'environnement, réimagine à sa façon et cherche par lui-même plus loin d'autres choses. Donc vraiment stimuler la curiosité et surtout démystifier quelque chose qui pour certains pourrait paraître trop compliqué, trop dur, inaccessible, etc., etc. Et donc, avec Tiens l'univers, ben, j'ai commencé à faire plusieurs activités, surtout au début, un peu dans toutes les directions. Donc, ça allait évidemment de la soirée d'astronomie, mais en prenant plus le temps, en parlant plus, donc en observant avec les télescopes et en même temps en parlant. C'est aller avec des promenades liées à l'astronomie, c'est aller en travaillant aussi avec des coachs en entreprise, en mêlant les impressions que peuvent susciter une plongée dans l'univers ou dans la perception des distances de l'infiniment grand, etc., et de rebondir sur ces impressions pour faire un travail d'équipe, de coaching dans une entreprise. Etc., etc., etc. Donc, habitant aussi à côté de l'observatoire de Haute-Provence, ça a aussi été une base pour accueillir du monde au sein de cet observatoire et aussi pouvoir faire des visites plus complètes d'un observatoire, là aussi, pour prendre son temps, prendre des petits groupes, et donc vraiment révéler l'astronomie sous tous ses aspects, sous tous ces liens différents, ou finalement, comme elle recoupe notre vie, hein, tant sur les questions justement de la vie, du temps, de l'espace, de soi-même, de son existence, de la Terre, de l'écologie. Et donc j'ai développé comme ça toute une série d'interventions, un peu tout azimut, qui ont eu un très très bon accueil. Et puis tout ça a pris une autre forme un jour en rencontrant Hélène Abou, avec qui on s'est associé pour créer quelque chose de plus grande envergure encore, c'est-à-dire, oui, c'est bien de vouloir distribuer de l'astronomie, mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment toucher à grande échelle? Comment on pourrait vraiment proposer à tout le monde, à tous les âges, une découverte de l'astronomie? Et très vite, en fait, on voit que y a des choses bloquantes dans l'astronomie. Les choses bloquantes, déjà, elles sont que quand on veut observer, il faut qu'il fasse nuit, il faut qu'il fasse beau, très souvent il faut qu'il fasse chaud. Donc on a un facteur météo très très important, une disponibilité très très importante. Et puis sinon, après, c'est les conférences, c'est la télé, c'est le pur visuel, où on rentre moins dans l'émotion, où c'est plus intellectuel. Et après, voilà, on est un peu entre les deux. Donc les gens qui ont trop peur de. Ils sont impressionnés par le trop intellectuel, trop complexe, vont être butés par une certaine partie. Et puis de l'autre, c'est les aléas météo et l'environnement qui va ralentir l'envie des autres. Et donc, ensemble, on a mis nos idées en commun pour créer une visite guidée du ciel en audio. Donc le principe de fond, c'était de se dire. Pointer dans le ciel ou montrer des choses sans but, sans objectif, c'est bien, mais pourquoi? Ce qui est important, c'est exactement comme quand on va dans un musée. Soit on a un catalogue, on s'arrête devant les œuvres, on lit le catalogue. Soit on prend un guide, et le guide va nous montrer un parcours, il va nous montrer certaines choses, pas tout, mais il va nous le montrer sous un certain éclairage. Il va révéler certains aspects, par exemple, de certaines toiles, mais pas tout. Par contre, il va garder une dynamique, pardon, une thématique. Il va garder une thématique assez stimulante qui va montrer l'évolution, les différences et éveiller un regard nouveau, une perception nouvelle et donc une série d'émotions nouvelles aussi. Et donc l'idée, c'était de faire la même chose. C'est déjà quelque chose que je faisais en partie lors des soirées. Et là, l'idée, c'était de le mettre dans la poche des gens, exactement comme on aurait un audio guide, un bon audio guide. Hein, c'est rare, souvent effectivement les audio guides font juste catalogue, mais imaginons un bon audio guide. Donc, et là, c'était la même chose, d'avoir cet audio guide qui vous raconte, sous une certaine thématique, certains aspects du ciel, et exactement comme quelqu'un, à certains moments du parcours, comme je le faisais avec mes télescopes ou en pointeur laser, et bien avec un appareil, en l'occurrence un téléphone mobile, qui est capable, grâce au GPS et au gyroscope à l'intérieur, de se positionner, de repérer et donc de donner des indications pour pointer un objet précis dans l'espace. Et en fait, avec cet outil, au milieu de la narration, mais du guidage, la possibilité donc d'aller pointer un objet pour illustrer ce dont on a parlé. Et donc, ça mis ensemble, ben, ça fait une visite guidée audio du ciel qui tient, donc, qui se télécharge, qui se met, en l'occurrence pour le moment, dans un iPhone ou un iPad, et qui s'appelle, il n'y en a qu'une pour le moment, la nôtre, donc, qui s'appelle Nuit des étoiles. Effectivement, donc cet outil est très intéressant. Il en existe d'autres, différents. Donc ce qu'il existe en fait, c'est quelque chose qui est apparu très très vite avec l'iPhone entre autres, c'est-à-dire un smartphone capable de pointer dans le ciel. Très très vite, on a vu apparaître toute une série de planétariums qui montraient le ciel étoilé en temps réel. Et suivant comment on orientait le téléphone, il montre les étoiles qui sont dans la direction dans laquelle on est en train de pointer. Donc il y en a une bonne vingtaine de ces logiciels planétariums, mais qui font plus ou moins tous la même chose, c'est-à-dire soit ils vous montrent ce que vous voyez et ils vous identifient ce que vous voyez. Donc vous voyez par exemple un point qui brille, vous pointez votre téléphone et il vous dit ce point qui brille là, c'est Jupiter. Ou au contraire, vous dites je cherche Jupiter, vous rentrez Jupiter et une série de flèches vont vous guider pour orienter votre téléphone en direction de Jupiter et vous dire ce point-là, c'est Jupiter que vous cherchez. La grande, grande différence qu'on a avec Nuit des étoiles, c'est que ce mode-là, en fait, de pointer ou de montrer, il marche un certain temps. C'est-à-dire que si vous savez ce que vous cherchez, on va vous le montrer, ou si vous voyez une ou deux choses, on vous dit ce que c'est. Mais très vite, le novice va en fait repérer un point, deux points, trois points brillants, et puis ensuite, il ne saura plus quoi pointer. Il saura même d'ailleurs plus quoi demander non plus. Et c'est justement pour répondre à ces novices ou aux gens qui vraiment découvrent, mais d'ailleurs ça va aussi pour ceux qui connaissent, mais vraiment aussi pour ceux qui découvrent, de dire je vous montre le chemin, je vous y amène, je vous laisse pas le choix d'aller à droite, à gauche, interroger sur n'importe quoi, on a un parcours et on va aller voir certaines choses. Après, il y a quand même une certaine interactivité, c'est-à-dire que chaque visite guidée, a toujours le même discours, mais sera toujours différente, parce qu'en fait, il y a plusieurs astres qui ont été sélectionnés, qui sont dans le logiciel, qui peuvent illustrer l'histoire. Et en fonction de l'endroit où on est, de l'heure où on est, de l'endroit où on est, eh bien, ça va être plus ou moins un astre ou un autre qui va être pointé. Par exemple, si à un moment dans Nuit des Étoiles, on parle des planètes, on va pointer sur des planètes, eh bien, en ce moment, si vous êtes en tout début de nuit, le logiciel pointera sur Jupiter. Si vous l'utilisez dans un mois ou deux ou un peu plus tard, eh bien, il pointera sur Saturne, qui sera dans une meilleure position. Donc ça, c'est la première, hein, Nuit des étoiles qui est sortie l'été passé et qui a donc remporté un très très grand succès, qu'on a eu pratiquement 160 000 téléchargements. Elle était gratuite à l'époque, c'était une offre de lancement pour populariser, tester, voir le rapport au public, donc qui a été très très positif, pas contre toute attente, hein. On était assez optimiste, mais c'est vrai qu'on se demandait si les gens arriveraient à prendre le temps à écouter longuement, et effectivement oui, quoi. Donc effectivement. Quand j'ai 160 000 téléchargements, hein, concrètement, ça voulait dire que c'était la deuxième application la plus téléchargée à ce moment-là en France, quoi. Donc un grand succès. Et ce grand succès, ben, ça nous a conforté dans notre idée, dans tous les autres développements qu'on avait en tête. Et on a donc créé peu après une société qui s'appelle Cosmo Story et qui est une société d'édition de contenu astronomique, de création d'applications pour téléphone mobile aussi. Et donc, sous cette impulsion, on a créé une société, Cosmo Story, qui est donc une société dédiée, une société de production, hein, et dédiée à la création de scénarios, de contenu, de vulgarisation astronomique, et surtout pour le moment, de création d'applications pour iPhone, pour iPad. Nuit des étoiles marche sur iPhone et iPad, hein, en ce moment. Probablement aussi Android dans le futur, on n'est évidemment pas limité par les supports. Et donc cette société, voilà, va développer toute une série d'autres visites et d'autres produits sur ces supports mobiles. Donc les projets, eh bien, ils sont courts maintenant, hein, parce que l'été, on y est déjà, nous. Les idées, on en avait plein, donc le travail ne manque pas. Et là, on va travailler sur d'autres histoires d'abord, c'est-à-dire exactement comme Nuit des Étoiles, on est en fait en train de créer une collection. Il y a la collection Nuit des Étoiles d'audio guide, donc de promenades narratives pour tout le monde, petit, moyen, grand, homme, femme, etc., etc. Donc on va créer plusieurs volumes, plusieurs histoires avec différents pointages dans cette collection. Et puis on va créer d'autres collections aussi, soit avec des personnes célèbres, des astronomes célèbres, pour avoir d'autres discours que le nôtre. Donc on va quand même donner toujours une même trame. On a une ligne éditoriale qui est très très importante pour nous et qu'on va garder. C'est notre marque de fabrique qui est, on peut aller très loin dans les concepts. On peut expliquer des choses plus compliquées que beaucoup de gens pensent a priori, mais toujours rester accessible, toujours rester dans les émotions, dans la découverte, pour que ça puisse vraiment correspondre à beaucoup de personnes, décomplexées par rapport à une complexité qu'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est vraiment notre ligne éditoriale et on va essayer d'intégrer d'autres auteurs justement dans cette ligne. Pour créer des contenus. Donc pour cet été, prévu deux, trois nouvelles applications. On a encore une autre application un peu surprise. On en dira plus dans les mois qui viennent. Un peu plus people, plus large. Voilà, quoi. Ça, c'est un peu les projets. Et puis, évidemment, sous tout ce projet, si vraiment on veut parler de divulgation, de diffusion, d'échange, on peut pas le faire que avec des applications iPhone. Oui, c'est populaire, mais en attendant, l'iPhone reste un support de luxe, donc c'est pas si populaire que ça. Donc oui, on viendra vers d'autres plateformes Android, effectivement, peut-être plus qui sont plus largement, enfin, plus disponibles pour plus de personnes. Mais surtout, on a tout un volet sur le web aussi qui se développe. Donc on a évidemment avec l'application Nuit des Étoiles le site dédié Nuit des Étoiles, donc nuit-des-étoiles.fr. Donc ce site, on explique l'application, enfin l'application Nuit des Étoiles, ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Et il permet deux autres choses importantes, c'est que quand on a fait une visite guidée du ciel, comme chaque visite guidée du ciel est un peu différente, puisqu'on aura rencontré des astres différents suivant à quel moment on l'a fait. On peut en fin de visite télécharger le contenu de sa visite, c'est-à-dire les astres qu'on a rencontrés, les télécharger sur ce site. C'est fait automatiquement en créant un compte et retrouver ensuite sur notre site, sur le site donc Nuit des Étoiles, retrouver les astres qu'on a vus avec un complément d'informations, de photos en plus grand et de liens. Donc on peut comme ça garder une trace de ces visites dans le ciel. Et il y a tout un autre volet qu'on commence à développer, qui va prendre encore plus d'ampleur dans les mois à venir, qui est un volet aller plus loin, découvrir plus, pour justement répondre à ce qu'on essaye de stimuler chez les gens, cette curiosité. Et on va essayer de le nourrir aussi en donnant des petits, enfin, en rédigeant des petits articles pour découvrir certains aspects. Une espèce de bonus en fait, hein, pour avoir un complément et découvrir certains aspects insoupçonnés encore et dont on a parlé ou pas. Et là aussi, une ligne éditoriale très large, c'est-à-dire, enfin très large, elle n'est pas large, la ligne éditoriale, très, très stricte, mais par contre très large dans l'éventail, c'est-à-dire que, comme je le disais au début, l'astronomie, c'est pas seulement la science, la physique des particules, l'astronomie, c'est aussi l'histoire, c'est aussi l'histoire des hommes, c'est aussi la mythologie, c'est aussi la philosophie, c'est aussi la spiritualité, c'est tout ça, l'astronomie, c'est la biologie, enfin, c'est à peu près sans limite, et on essaye aussi justement de recréer cet éventail pour que vraiment, effectivement, chacun y trouve ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Pas dans l'esprit pot-pourri, chacun trouve ce qu'il veut, mais vraiment dans le sens de la connaissance, l'esprit critique, la découverte, ça se conjugue de plein de façons différentes, et chaque personne a sa façon, a sa sensibilité, a ses mots, et ce qu'on veut, c'est au travers de ça, c'est chacun a son langage, Mais par contre, ce langage, si on l'aiguise, justement, si on aiguise son sens critique, si on est curieux, eh ben, nous, on pense que c'est mieux. Il y avait, comme on disait, il y avait plusieurs défis à relever, vu qu'on voulait amener les gens à découvrir l'astronomie sous certains aspects. Donc, le premier défi, c'était d'une part, de ne pas faire peur à ceux qui pensent que c'est complexe. Donc, justement, démystifier l'astronomie et dire, oh, mais on peut y aller. Et puis, tranquillement, les gens voient que ça commence tout gentil. La nuit des étoiles, il s'agit des distances. Donc, au début, ça paraît tout à fait accessible, et ils se font emporter, 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 emporter de plus en plus loin, et finalement ils voient qu'ils arrivent à aller très très loin et avoir leur propre perception des distances interstellaires, voire intergalactiques. Puis en même temps, le défi, c'était pour ceux qui aiment l'astronomie ou qui connaissent l'astronomie, que ce soit pas, bon, c'est bien gentil cette histoire, mais moi je connais déjà tout ça. Donc on est assez content d'avoir trouvé le bon discours, celui qui va aux deux, hein. C'est vrai que donc j'ai Chris Tex, il y a des copains astronomes qui l'ont relu aussi, on peut discuter. C'est vrai que j'ai eu des retours de copains astronomes de, ah oui, c'est vrai, ça c'est, oh, j'avais pas pensé, mais ça on peut voir comme ça. Donc c'est vrai qu'on est assez fiers effectivement d'avoir trouvé quelque chose qui répond un peu à tout le monde, hein. À, disons en tout cas à différents niveaux de connaissances. Et peut-être simplement parce qu'on fait appelle aux émotions et à la représentation. Et ça, qu'on soit prix Nobel ou pas, sa représentation de l'espace, des dimensions et du temps, on en a chacun la sienne, et c'est pas parce que on a plein de connaissances qu'on a une meilleure représentation, même des fois on a plein de connaissances sans s'être jamais penché sur le sens et la représentation. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'était ouais, très positif de voir que ça avait bien été perçu dans ce sens, sur un public très très large. Et l'autre intérêt justement de passer par un mobile, hein, comme je disais, pour le moment iPhone ou iPad, c'était que chacun puisse l'avoir avec soi pour observer quand il veut. Alors d'abord il y a l'heure, mais après il y a aussi le temps et la météo justement et la couverture nuageuse. Et puis le truc, c'est que beaucoup de gens vivent en ville aussi, où là c'est encore plus réduit. Alors très souvent, les gens pensent qu'en ville, on voit rien du tout. En fait, on voit quand même pas mal de choses, on est assez étonné. Mais c'était comment aussi donner accès à ces gens-là qui disent, tiens, j'aimerais un peu rentrer dans l'espace, découvrir le ciel, là, maintenant, ici. Et sauf que, voilà, je suis chez moi dans mon canapé, ou je suis chez moi, il y a des nuages, etc. Et donc, Nuit des étoiles a vraiment été aussi pensée comme une espèce de fenêtre sur le ciel, hein. C'est-à-dire que, comme les autres planétariums, à l'écran, on a en permanence, en temps réel, les étoiles comme elles sont dans la direction dans laquelle pointe l'iPhone ou l'iPad. Donc c'est une réelle fenêtre sur l'univers, pratiquement, qu'on porte devant soi, et on peut tout à fait faire la visite couché dans son canapé, en pointant son téléphone ou son iPad, en écoutant la voix, et en se dirigeant de droite à gauche, et s'immerger dans le ciel au travers de l'écran. Ça coupe rien aux émotions, c'est pas la même découverte du ciel direct, mais c'est vraiment comme ça que ça a aussi été pensé, pour que finalement les urbains aussi puissent avoir le ciel dans la poche d'une certaine façon et pouvoir le découvrir quand ils veulent, quoi. Et puis, pour laisser une trace de tout ça aussi, là, un autre aspect important, c'est que je faisais référence avant à ces applications qui vous pointe des astres dans le ciel. Alors par exemple, vous allez dire, ah, je veux voir tel amas d'étoiles, et l'application, donc là je parle des applications concurrentes, mais avec des flèches, elle vous amène à un endroit, elle vous pointe à un endroit dans le ciel, elle dit, c'est là. Voilà. En règle générale, on ne voit rien, parce que l'objet est faible, si en plus on n'a pas un ciel exceptionnel, c'est vraiment très dur de voir quelque chose. Dans la réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. Si vous demandez à quelqu'un qui connaît le ciel d'aller repérer un astre, ou une galaxie, ou un objet faible, il va jamais droit aller pointer dans le ciel, dans le noir comme ça. Ça va toujours être un chemin. aller de proche en proche. Moi-même, quand je cherche une galaxie, je vais d'abord chercher une constellation que je connais. De cette constellation que je connais, je vais repérer une ou deux étoiles. Et de ces étoiles, de proche en proche, j'ai un chemin que j'ai dans ma tête, que j'ai appris et que je me souviens, et qui, d'étoile en étoile, hein, généralement c'est 2, 3, 4 étoiles au maximum, va tranquillement m'amener dans une région du ciel bien précise, et c'est dans cet endroit où apparemment je voyais rien dans un premier temps, qu'en y faisant attention, je vois que finalement il y a un petit objet. Ce petit objet, ben, des fois, c'est une centaine de milliards d'étoiles. Et dans notre application, les étoiles, on a reproduit ça. C'est-à-dire que les pointages d'astres, puisque l'objectif, d'abord, il va y avoir des pointages sur les étoiles, sur les planètes, mais notre souhait, c'était de réussir à amener les gens à aller découvrir, voir à l'œil nu une galaxie. Et donc, tout ce travail se fait tout au long de la visite guidée. Et donc, pour aller découvrir une galaxie ou un objet faible, une galaxie dans le ciel, eh bien, on va faire pointer sur une étoile d'abord. Et donc, avec le téléphone, les flèches vont vous montrer la direction d'une étoile. Vous allez diriger votre iPhone en direction du ciel jusqu'à trouver cette étoile. Et une fois que cette étoile a trouvé, il y a un tracé qui va se dessiner, un dessin d'étoile en étoile, de proche en proche jusqu'à la galaxie. Et en fait, c'est ce tracé que vous allez mémoriser pour vraiment reproduire dans le ciel le même et identifier la galaxie. Et on espère, nous, que c'est ce tracé qui vous reste aussi à la fin, pour que même sans l'application, il soit possible ensuite, seul la nuit, de voir, oui, cette constellation est là, cette étoile est là. Si je vais celle-là, à droite, hop, je monte un peu, je vais à droite, là, il y a la galaxie. Et c'est comme ça qu'on peut la voir. Sinon, on est complètement perdu dans l'espace. Donc voilà, c'est tout ça qui donne voilà, cette visite guidée qui à la fin, normalement, devrait changer votre perception, votre vue du ciel et de l'univers.